Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 5 minutes, Carrefour avec Jacques Aristide. Mais tout d'abord, les nouvelles. En Côte d'Ivoire, reprise de la publication département par département du résultat final du référendum sur la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. Plus de détails avec Nathalie Barge.
D'après les résultats toujours provisoires du référendum, le oui est largement en tête. La commission électorale qui a repris l'annonce des résultats des régions restantes ce mardi a été interrompue de nouveau dans son travail. Selon César Etou, directeur du journal La Voix Originale, cette interruption était due à un mouvement interne d'agents électoraux qui réclamaient leur perdième avant de remettre des procès-verbaux. La commission électorale devait lire les résultats d'une quinzaine de régions restantes. Le taux de participation est le véritable enjeu du scrutin. Les coalitions de l'opposition ont donné dès dimanche leurs estimations. Pour l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, le taux de participation est entre 6 et 7%. Quant à la nouvelle plateforme Front du Refus, coalition du non, qui a également appelé au boycott, elle l'a estimé entre 3 et 5%.
Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kabore a exhorté aujourd'hui l'armée à se conformer aux règles de l'état de droit, quelques jours après l'annonce d'une présumée tentative de putsch déjouée par les forces de sécurité. La démocratie a besoin d'une armée forte et républicaine, une armée débarrassée des réflexes de l'état d'exception, a déclaré le président Kabore dans un discours à des militaires réunis place de la Révolution à Ouagadougou pour la célébration du 56e anniversaire des forces armées nationales.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Nouvelle vague de violence dans l'est de la RDC, plus précisément dans le village de Kitevia, dans le territoire de Beni. Les rebelles ougandais actifs dans la région s'en sont pris à la population civile, Salwa Jafari.
Au moins 6 civils ont été tués lundi à l'arme blanche dans une attaque attribuée à des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. Les ADF ont fait irruption dans le village de Kitevia, un centre de santé a également été pillé selon Bernard Amissi Kalonda, administrateur du territoire de Beni. La présidente de la société civile de Beni, Noëlla Katsongerwaki, a confirmé l'information. Depuis octobre 2014, environ 700 personnes ont été tuées essentiellement à l'arme blanche et à la machette dans une série de massacres ou d'attaques dans cette région. Le gouvernement congolais et la mission de l'ONU attribuent ces tueries aux rebelles ougandais musulmans des ADF. Cette version est remise en cause par des chercheurs et un groupe d'experts onusiens pour qui les ADF partagent la responsabilité avec d'autres groupes armés et certains éléments de l'armée congolaise avec la complicité de certains chefs militaires locaux.
Centrafrique, l'ONG Human Rights Watch exhorte aujourd'hui l'ONU à renforcer la protection des civils dans le pays au lendemain du retrait officiel de la France qui laisse les casques bleus en première ligne face à la violence des groupes armés. Un appel lancé à l'occasion de la publication respectivement par Human Rights Watch et la MINUSCA, la mission de l'ONU à RCA, de rapport sur les violences à Kagabandoro dans le centre du pays à la mi-octobre. Et pour terminer, en Irak, l'armée irakienne a annoncé ce mardi l'entrée de ses forces à Mossoul pour la première fois depuis la prise de cette ville par le groupe djihadiste État islamique en juin 2014. Les précisions de John Lyndon.
Les forces armées irakiennes ont pénétré par la rive gauche à Mossoul, selon le centre de commandement conjoint des opérations chargées de l'offensive. Quelques heures auparavant, le commandant du service du contre-terrorisme irakien avait affirmé que la véritable bataille pour la reprise de Mossoul venait de commencer, sans préciser quand elle va se terminer. Tard lundi soir, le premier ministre Haider al-Abadi, dans une allocution à la télévision publique, avait appelé les djihadistes à se rendre ou mourir. L'ONU a averti que le groupe État islamique tentait de déplacer des milliers de civils pour s'en servir comme bouclier humain. Les forces irakiennes mènent depuis le 17 octobre une opération d'envergure pour reprendre la deuxième ville d'Irak et ont avancé sur plusieurs fronts. En juin 2014, le groupe État islamique s'était emparé de Mossoul et son chef avait autoproclamé son califat.
Merci de vos attentions. Maintenant, Carrefour avec Eric Manirakiza.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Heureux de vous retrouver, chers auditrices et auditeurs de Carrefour. Eric Manilakis en votre compagnie. Aujourd'hui, Carrefour se focalise sur la déforestation Madagascar notamment.
Pour pouvoir avoir davantage de terres, ils ont pour habitude de défricher la forêt, donc de réduire les couverts forestiers, ce qui conduit naturellement à terme à mettre en péril les ressources naturelles dont ils dépendent.
Guillaume Chiron est spécialiste de la biodiversité. Il nous expliquera ce qui se passe dans l'île de Madagascar au chapitre du changement climatique. Vous allez comprendre que les ouragans sont mieux anticipés, mais gardent leurs secrets. Nous irons aussi à Port-au-Prince. Haïti comptabilise le plus de dégâts des dernières catastrophes naturelles. Et surtout, découvrons ensemble que les oiseaux chantaient déjà à l'ère des dinosaures. Bienvenue à tous. L'homme a été doué de raison et de force créatrice afin de multiplier ce qui lui a été donné. Mais jusqu'à présent, il n'a rien fait que détruire. Il y a de moins en moins de forêts, les rivières se dessèchent, le gibier disparaît, le climat se détériore. De jour en jour, la terre devient de plus en plus pauvre et de plus en plus laide. C'est le constat de Anton Tchekhov. Et dans Carrefour d'aujourd'hui, nous jetons un autre regard sur ce qui se passe au Madagascar. La forêt se fait rare dans l'île. Des populations riveraines, des parcs forestiers sont tombés dans le cercle vicieux de brûler davantage de forêts pour de nouveaux espaces agricoles. Une solution qui ne peut plus durer, sauf à accorder une chance au reboisement mené sous l'impulsion de ONG française. Nanit Talani.
Il y a 10 ans, il y avait encore des forêts sur la moitié des flancs de montagne dans la commune rurale de Rano Mafana, qui regroupe 22 000 habitants éparpillés sur plusieurs hameaux. Aujourd'hui, les habitants subissent de plein fouet les conséquences de leurs pratiques. Avec la déforestation, les cours d'eau des montagnes sont à sec et ne peuvent plus irriguer suffisamment les cultures des plaines, poussant les villageois à déboiser encore davantage pour trouver des terres fertiles. Plusieurs ONG, en partenariat avec l'Agence française de développement notamment, pilotent un programme de conservation des forêts dans la région. Lancé en 2008, ce projet de 4 millions d'euros a notamment permis de créer dans une vingtaine de villages du sud de la Grande Île des communautés de base, COBA, pour délimiter des centaines d'hectares de territoire où toute déforestation est rigoureusement interdite. Sans la forêt, ce sont toutes les facettes de la vie des agriculteurs qui vont disparaître, explique Mathieu Bayrel de l'ONG Etc. qui coordonne le programme. Si on ne protège pas les forêts en amont, la productivité agricole diminue en aval. Une fois que ce lien est fait dans la tête des gens, c'est plus facile d'agir là-dessus, plaide Hélène Gobert, chargée des projets développement rural et environnement à l'AFD à Madagascar. Plusieurs projets accompagnent aussi les COBA, à la fois pour proposer des alternatives agricoles et améliorer les conditions de vie grâce par exemple au reboisement. La forêt, déjà victime des pratiques agricoles, est aussi une cible de choix pour les villageois qui exploitent le bois. En quelques coups de machette, Mamonji entretient le bosquet d'acacia et eucalyptus replanté dans son village en 2012. Grâce à ce reboisement, on ne va plus se servir dans la forêt pour notre charbon ou notre bois de construction, se félicite-t-il. Un arbre, ça met du temps à pousser, donc les effets ne sont pas visibles à court terme. On a besoin de projets qui durent longtemps pour espérer des changements de pratique, note Hélène Gobert. Le message commence à passer et on commence à en voir des effets. Mais ce sera long car on parle de changement de mentalité sur les pratiques parfois millénaires, ajoute Mathieu Bayrel. Les défis demeurent titanesques à l'échelle de ces territoires aussi grands que la France, où plus de 9 malgaches sur 10 vivent encore sous le seuil de pauvreté.
Tout à fait, Nanit. La pauvreté constitue un défi majeur dans la protection de la forêt. Guillaume Chiron, spécialiste de la biodiversité à l'Agence française pour le développement, nous parle de l'impossible équation des paysans de Madagascar qui brûlent la forêt pour survivre.
On peut comprendre par là que les paysans malgaches ont besoin de davantage de terres